Jackson. Das haut moi den Patrice Urbet nach Direktor von Music LX. Bonjour Patrice.
Moyen.
Moyen, vous avez appris le luxembourgeois récemment, non seulement pour votre travail, mais aussi par amour du pays, vous m'avez dit.
Oui, c'est ça. Je voulais être en galère, je voulais un élo de Luxembourg nationalité, avoir un chouette slaver français.
Ok. Vous parlez beaucoup de langues, puisque vous étiez dans beaucoup de pays au cours de votre carrière. Énumérez un peu.
Bah, j'étais attaché culturel pour l'ambassade de France à Tokyo. J'ai été aussi attaché culturel à Amsterdam. Voilà. Donc, j'ai fait toute une carrière à l'étranger. Sur 35 ans de travail, j'ai dû en passer 6 seulement en France à Paris. Mmh. Donc, de commencer comme attaché culturel, puis après j'ai été créateur et avec monsieur Jean-François Michel du bureau export de la musique française pour lesquels j'ai travaillé 25 ans.
On va revenir sur le sujet. Vous avez commencé en fait votre carrière aussi avec les langues. Vous avez appris, étudié le français et l'allemand et vous vouliez être professeur.
Oui, je voulais être professeur, j'avais envie d'une carrière dans le cinéma, mais bon, voilà, à un moment donné, mes parents m'ont un peu mis la pression pour que je fasse quelque chose de
bien,
raisonnable
voilà.
Et de bien, donc j'ai passé mes concours de prof et que j'ai réussi, et mes parents étaient très contents, et donc j'ai enseigné un an et dans un lycée.
Vous n'étiez pas si content.
Ça se passait bien, mais bon, c'était pas le rêve de ma vie, c'était pas, et donc après, j'ai pris ce qu'on appelle un congé, et sans solde, et je suis parti faire le tour du monde avec mon sac à dos, directement. Corée, Japon, Thaïlande, et puis on peut dire que je suis jamais revenu.
Donc vous atterrissiez en Asie sans un sou en poche,
c'est ça, oui, presque pieds nus et avec la barbe et un petit côté hippie.
Ok, c'était quel temps à peu près?
Bon, c'était en septembre, octobre, novembre, et il faisait encore beau en Thaïlande. Évidemment, j'ai un souvenir du Japon où j'arrive à Tokyo, il devait être le 10 janvier. J'avais quelques lacunes en géographie. Pour moi, Tokyo, c'était aussi tropical et j'étais en sandalette et il neigeait ce jour-là au Japon. Il faisait 0 degré. Donc, voilà.
Okay. Non, mais je voulais dire quelle année à peu près. Ouf. Comme vous aviez dit, avec un petit air de hippie.
Oui, bah, je sais pas. Maintenant, j'ai 65 ans. J'en avais 25.
25.
Donc il y a 40 ans.
Ok, ça fait un certain temps. Donc c'était fin des années 70.
Mm. Mm-hmm. Mais après, je suis resté au Japon. J'ai travaillé 3 ans là-bas. D'abord comme prof de français, après prof à l'université et après attaché culturel.
Est-ce que la débrouillardise a été importante pour vous au cours de votre vie?
Tout le temps, tout le temps. La débrouillardise, il faut se débrouiller. Quand on arrive à Tokyo, on ne sait même pas lire le japonais. Il faut se débrouiller dans le métro, il faut se débrouiller. Puis aller. Aujourd'hui, c'est plus facile, il y a Internet. Mais à l'époque où j'ai voyagé, il y a 40 ans, il n'y avait pas d'Internet. Donc là,
Vous avez
et puis aussi, on se débrouille. Quoi. Voilà, on se fait quelques amis, des japonais qui nous traduisent les lettres, qui nous expliquent. Après, on apprend à reconnaître certains signes. Voilà. Puis on prend des cours de japonais aussi un peu. Voilà. Puis il faut de la débrouillardise aussi pour diriger Music LX, parce qu'il faut quand même arriver, je dirais, à vendre des artistes du Luxembourg à des gens qui ne les connaissent pas et qui sont des festivals en France, en Allemagne. Donc il faut quand même se créer un réseau, avoir des arguments. Si la porte est fermée, on entre par la fenêtre. Si les deux sont fermés, on passe par la cheminée. Quoi. Voilà, oui, c'est sûr. Ce qui m'a aidé dans la vie, c'est savoir me débrouiller et aussi le don des langues. Et puis il faut savoir aussi être généreux, il faut savoir donner, savoir, c'est un échange, c'est très important la relation d'échange, je pense, dans le monde de la musique.
Mm-hmm.
Parce que des fois, on aide aussi des artistes français à faire un peu quelque chose au Luxembourg. Et les gens nous sont très, ils sont reconnaissants.
Mm-hmm. Quel a été le point de départ pour changer d'attaché culturel qui s'occupe aussi d'autres domaines que seulement de la musique jusqu'à venir à Music Export?
Ça s'est passé à Amsterdam, à cette époque-là, puisque à Amsterdam, j'étais attaché culturel et attaché aussi linguistique pour la langue française. Et on se désespérait de voir les élèves qui apprenaient le français, les Hollandais, l'abandonner en cours d'études, parce que à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, on avait deux langues jusqu'au bac, mais on était obligé d'en garder qu'une seule. Et tous les élèves gardaient l'anglais, ils abandonnaient le français en cours, qu'ils trouvaient trop difficile, pas marrant et tout. On avait fait plein de stages pédagogiques pour les profs, mais ça avait servi à rien. Et moi, je me disais, ben oui, mais c'est normal, un jeune de 16 ans, 17 ans, pourquoi il serait motivé d'apprendre le français, quoi? Voilà. Et tous les films sont américains à la télévision, les cinémas aussi, la chanson, la radio, ça diffuse en anglais. Je me suis dit, ben, si on veut les toucher les jeunes, il faut les toucher aussi, pas seulement dans le cadre de l'école, mais en dehors de l'école, dans les salles de concert, dans les télévisions, dans les radios. Et donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin, on peut dire, puis j'ai frappé à la porte des radios, j'étais très bien en arrivant avec une pile de disques de chansons françaises. Finalement, à ma grande surprise, j'étais bien accueilli, les radios les ont écoutées, ont trouvé des trucs bien et les ont passés à l'antenne. Après, j'ai été interviewé dans des émissions, après je suis passé à la télé, après j'ai pu organiser des concerts, et les concerts ils ont super bien marché. Au Paradiso d'Amsterdam, il y avait 1000 personnes pour voir le groupe Niagara à l'époque et tout. Et donc après, bah, j'ai frappé à la porte des maisons de disques pour leur dire, ben, pourquoi vous signez pas un artiste français? Ben, j'ai un super artiste, il s'appelle MC Solar, ça pourrait très bien convenir à votre label ou à votre radio. Puis voilà, c'était parti. Et puis après, ben, j'ai lu une fois dans le journal qu'il y avait une personne au ministère de la Culture qui était chargée de faire une enquête et de voir si on pouvait un jour faire une action à l'exportation de la musique française. Je l'ai appelé, je lui ai dit, ben, venez voir ce que je fais en Hollande, je fais que ça toute la journée. Et après, l'ambassadeur a décidé que je n'étais plus attaché culturel ni attaché linguistique et que je pouvais me consacrer 100% à la musique. Je suis devenu le premier, ce qu'on appelle attaché musique dans une ambassade. Ça n'avait jamais existé.
Ça vous faisait quoi ? Comme sentiment, c'était...
Ouais, c'était super, parce que finalement, après, on a organisé des concerts de Patrick Bruel. Il y avait 12 000 personnes au Rotterdam. Voilà, j'ai eu une fois une page entière dans Le Monde en France sur mon action. Je fréquentais des artistes. Voilà, puis il y avait des résultats aussi pour les élèves. Les élèves, ça a marché, se sont remis à se promotiver pour le français. C'est ça qui est incroyable. Et je me rappelle, dans tous les salons de coiffure de la Hollande, il y avait la photo de Patrick Bruel, etc.
Beaugard attaché au mur.
Attaché au mur.
Oui, ça joue aussi un certain rôle, comment se vendre.
Mais il faut donner envie, il faut que la langue soit sexy. Si vous voulez vendre le français, ben, faut que ça... C'est la même chose, si moi je veux vendre des artistes luxembourgeois aux Français, aux Allemands, aux Japonais, ben, faut raconter une histoire, il faut que ça soit sexy, il faut qu'il y ait quelque chose à dire, il faut développer. Je prendrai un exemple, le groupe Doc in Absolute. Si on avait commencé à les développer par les réseaux classiques, dire bah, il faut un concert à Paris, ou d'abord en grande région, ensuite on va à Paris, après on va à Berlin. On aurait mis 10 ans pour le faire. Nous, ce qu'on a fait avec l'artiste, on s'est dit, bon, l'Europe, on s'en fiche, maintenant on débarque directement en Asie. On a commencé par développer la Chine, le Japon, la Corée, etc. Et là, ils ont vendu beaucoup de disques, ils ont eu beaucoup de succès. Et donc, le dernier concert qu'on a fait, c'est pour ça que j'ai choisi ces deux artistes, Craig Lamy et Doc in Absolute. On a fait un concert à Taïwan en octobre et il y avait 20 000 personnes pour les artistes. Ils ont joué devant 20 000 personnes. Donc, vous imaginez, après, il y a des vidéos qui circulent sur le net où on voit des artistes luxembourgeois devant 20 000 personnes. Et après, ça nous aide quand ça se passe. Bah, les Français s'y intéressent, les Russes s'y intéressent, les Allemands aussi. Et voilà, et après, c'est beaucoup plus facile de vendre ces artistes en passant par l'Asie qu'en attaquant directement l'Europe.
Comment vous faites pour persuader un organisateur en Asie d'inviter un groupe luxembourgeois ?
Eh bien, on le fait, ça fait déjà la quatrième édition qu'on fait. Le plus important, c'est le Luxembourg Jazz Meeting, hein, qu'on fait en collaboration avec Neumünster, c'est-à-dire que pendant 2 jours et demi, on a 10 groupes luxembourgeois qui jouent en ce qu'on appelle en showcase, c'est-à-dire ils jouent une demi-heure devant des professionnels de toute l'Europe et de l'Asie qu'on a invités pendant 2 jours et demi. Hein. Donc ils voient toute la production et en général, après, je dirais 70% de nos invités les réinvitent sur les festivals. On travaille aussi un peu de la même manière avec le centre culturel Ob der Schmelz, avec Daniel Inditi et John Resch, oui. Avec le festival Like a Jazz Machine, où on invite aussi des gens d'un peu partout. Et ces gens-là, ils sont confrontés à nos artistes, ils se rendent compte qu'on a des bons artistes, parce que finalement, on arrive à faire ce métier que si on a des artistes qui sont excellents. La même chose, bon voilà, avant de signer, moi ce que j'ai fait, j'étais quand même pendant plus de 20 ans directeur du bureau export de la musique française, on m'a proposé un contrat de travail au Luxembourg, quand même la première chose que j'ai faite c'est d'écouter les artistes, d'écouter Pascal Schumacher, d'écouter Michel Reiss, d'écouter... les groupes de pop-rock, Monofona, d'écouter Jean Muller, d'écouter Francesco Tristano et de voir si... Parce que j'avais quand même travaillé pour des grands artistes. J'avais travaillé pour Julien Clerc, Patrick Bruel, les Daft Punk et tout. Bon, j'allais pas m'occuper d'artistes de seconde zone. Et j'ai été très convaincu par la qualité de ces artistes, même s'ils n'étaient pas encore complètement établis sur le plan international. Donc, je pense que je suis arrivé aussi au bon moment au Luxembourg, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses au Luxembourg avant même Musicalik. Il y a la Rocale, il y a toute une série de choses qui avaient été faites. Il y avait eu l'année Luxembourg, capitale de l'Europe.
Voilà,
et
c'est
tout.
Ça, le coup d'envoi. Ouais,
c'est le coup d'envoi. Donc, en fait, Musicalik, c'est arrivé la bonne année, au bon moment, et on a rajouté une couche et on a mobilisé un peu tous les artistes pour qu'ils se. Parce que l'export, c'est une bataille, la bataille de l'export. Quoi.
Il y a cette manière de penser que tout ce qui est luxembourgeois ne soit pas aussi bon que ce qui vient de l'étranger. Donc vous ne signez pas ça.
Ça m'a beaucoup énervé. Parce que,
je suppose.
Étant français.
Vous connaissez cette manière de penser.
J'ai bien compris. Oui, mais moi, évidemment, un français n'est jamais complexé. Hein, ça, c'est clair. Bon.
Et
moi,
comment ça se fait?
Oui, je ne sais pas. voyez notre président, M. Macron.
Oui, voilà.
Donc, même moi, je ne suis pas complexé non plus. Donc, comme je suis, avec mes artistes, quand même devenu luxembourgeois, mais j'ai quand même gardé mon caractère français. C'est que moi, je trouve que les artistes sont excellents et j'aime bien le dire, quoi. J'en suis fier, quoi, d'avoir des bons artistes. Je ne les citerai pas tous parce qu'il y en a trop et que justement, c'est ce qui m'a le plus étonné. Ça étonne aussi tous mes partenaires étrangers. On n'est quand même pas un grand pays au Luxembourg. On a 500 000 habitants et on a combien de groupes développés à l'international? 60 artistes à l'international. On n'est pas plus grand que la ville de Nancy, Metz, Longwy, Thionville ensemble. Oui. Et à Nancy, à Metz, il n'y a pas autant d'artistes. On a Francesco Tristano qui fait une carrière internationale fantastique. Et puis, donc on peut être très fiers de l'excellence du Luxembourg. C'est pour ça que nul n'est prophète en son pays. C'est pour ça que nous, on a mis beaucoup d'énergie, de cœur pour faire que nos artistes triomphent à Paris et à Londres. Des fois, on vend plus de tickets pour un artiste luxembourgeois à Paris qu'à Luxembourg. Ça, je le regrette.
Que le public à Paris est plus grand?
Oui, mais aussi, voilà, et à un moment donné, je crois qu'un pays doit supporter ses artistes, doit être fier. Mmh. Alors, évidemment, le Luxembourg est aussi un pays un peu spécial, où il y a 60% de luxembourgeois, 40% d'étrangers. Les étrangers, des fois, sont seulement en transit, ne s'intéressent pas beaucoup à la culture luxembourgeoise. Enfin, voilà, c'est pas... Le Luxembourg est un pays complexe. Mmh. Ça, je l'ai appris au cours de mes 8 années.
Je voulais revenir sur quelque chose que vous aviez dit auparavant. Il faut qu'un groupe ou un chanteur soit sexy pour pouvoir le vendre. Quand je regarde la photo de Doc in Absolute sur le site Musicalik, ils sont très classiques avec des chemises blanches, gilets, cardigans. Voilà, c'est dans un parking, je suppose, qu'ils ont été photographiés. Est-ce que c'est ça le style à l'instant?
Ça plaît beaucoup, le groupe Doc in Absolute est un des groupes qui lui plaît le plus en Asie. Le pianiste, quand il est sur scène, il est quand même assez jeune, assez beau, et il communique bien avec son public, et ça joue un rôle, ça donne envie aux gens d'acheter le disque après. Et aussi, Francesco Tristano, la même chose, quoi. Voilà, c'est sûr que...
Mais qui définit qu'est-ce qui est sexy à l'instant?
Ben le public, c'est le public. Enfin, on voit bien si les gens, comment les gens réagissent, c'est pas moi qui vais dire, les artistes s'habillent comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, et... C'est à eux de... Enfin, c'est...
Mais vous prenez le droit, si je peux dire ainsi, de leur dire, essayez peut-être ceci ou cela.
Oui, ça peut m'arriver quand des fois. Mais bon, c'était plus au début. Au début, les artistes étaient quand même très peu formés, enfin, les jeunes artistes. Donc, je leur ai toujours dit ce que je pensais, oui.
En auto-marketing.
Mais bon, maintenant, ça, j'ai plus besoin de le dire. Des fois, j'étais un peu professeur. J'étais à nouveau professeur, un peu... Des fois, d'école maternelle, après c'est mieux maintenant. Bon, j'avais des artistes qui ne savaient même pas la différence entre une maison de disques, un éditeur et tout. Voilà. Surtout en jazz et en musique classique, puisque pour le pop-rock, il y a le fantastique travail fait par le Rock Lab et la Rocale. Donc les artistes pop-rock sont bien formés. En jazz et en classique, il n'y a personne qui forme les artistes qui sortent du conservatoire. Ils ne connaissent pas les métiers de la musique.
Est-ce que vous avez approché pour assez fin aussi les conservatoires au Luxembourg?
Non, parce que ça, c'est pas le travail de Musicalik, ça. Je pense, nous, on est là pour prendre des artistes. On n'est pas là pour faire les premiers pas aux artistes. On est là pour prendre des artistes déjà excellents, qui intéressent les professionnels. Parce que c'est pas moi qui choisis les artistes qui vont à l'export. C'est pas mes collègues, c'est pas Musicalik. Nous, à un moment donné, on présente tous les artistes, puis les professionnels nous font des retours et disent bah, moi ça m'intéresse tel artiste, j'ai envie de prendre Jaffer, il y en a un autre, c'est Maxime Bender et tout, et c'est pas moi qui dis ah, faut prendre Maxime Bender, ah, il faut prendre Jaffer. Moi, tout est proposé. Après, il y a les retours, ce qu'on appelle les retours des pros, quoi. C'est comme. Il y a une sorte de menu, là, Luxembourg, avec tous ces artistes que nous, on présente, et après.
Musical.ly s'est créé en 2009 et je pense que vous avez commencé à travailler en 2011, c'est bien ça?
Les Musical.ly au Luxembourg a ouvert ses portes en septembre. Et là, j'ai recruté mon adjoint Giovanni Trono qui prendra la direction là, à partir du 5 mars. Mm-hmm. Mais moi, j'ai commencé à travailler pour le Luxembourg déjà en 2010, à faire une mission de préfiguration. J'étais encore basé à Londres. Et puis moi, le Luxembourg, je connais depuis longtemps, puisque j'étais directeur du bureau export à Berlin. Et à ce moment-là, on m'avait... et j'étais engagé avec M. Jean-François Michel dans le bureau européen de la musique. Mais on a toujours été convaincus des Européens à fond la caisse, je dirais. Mmh. Et M. Jean-François Michel m'avait demandé d'accueillir dans mon bureau et de la former Anne Müller, qui avait été pressentie pour être directrice de Musical.ly. Et qui est maintenant attaché culturel du Luxembourg à Berlin, parce qu'il y a eu une tentative de créer Musical.ly déjà il y a 16 ans ou 15 ans. Mm-hmm. Et moi, à ce moment-là, j'avais fréquenté un peu M. Bob Cripps, qui était directeur de la SACEM, j'avais rencontré Mme Octavie Modert, j'ai quand même formé pendant 6 mois la personne qui devait être en charge de Musical.ly à Berlin. Et moi, à ce moment-là, je n'avais jamais imaginé que ce serait moi, finalement, 8 ans plus tard, qui deviendrait directeur, ou 10 ans plus tard, directeur de Musical.ly.
Comment ça se faisait ? On vous a demandé de venir au Luxembourg ?
Oui, à un moment donné, ils ont réussi à créer leur association, d'avoir le soutien financier du ministère de la Culture. Et puis à ce moment-là, ils ont commencé à chercher un directeur. Et puis bon, il y a une ou deux personnes qui m'ont dit « Patrice, nanana, tu ne voudrais pas poser ta candidature ?» J'ai failli le faire, pas le faire. J'ai un peu hésité. Puis bon, je me suis dit « Allez, un nouveau challenge ». À 58 ans ou 56 ans, je remonte un bureau à partir de zéro. Et ça m'a un peu
fasciné. C'est un nouveau challenge comme ça.
Ouais. Voilà.
Avec une expérience que vous aviez.
Ah oui, j'avais une expérience, j'avais un carnet d'adresses, j'avais des contacts. J'ai pu être opérationnel tout de suite, quoi. Voilà. Mm-hmm. Puis je connaissais déjà un peu les artistes puisque j'avais formé Anne Müller et tout, donc ça a été très vite.
Vous avez ramené de la musique aussi parce qu'on fait toujours. Faire choisir les invités des pièces de musique. Vous
c'est
avez ramené
bien.
Doc in Absolute, donc Broadwalk Sunshine. Pourquoi ce groupe et ce titre?
Parce que je voulais parler un peu de l'opération à Taïwan en octobre, et c'est là où les deux groupes ont joué. Puis les deux artistes ont eu, pas cette année, puisque cette année c'était Rice Limit Vilgan, le prix export. Donc Doc in Absolute, c'était l'année d'avant, prix export. Et Greg Lamy, c'est aussi un prix export. Voilà, ce sont des deux artistes qui s'exportent le plus, qui vendent le plus de disques à l'étranger. Doc in Absolute, ils sont dans les 10 000 disques vendus à l'étranger. C'est un record. Et ça étonne même les artistes de jazz français ne vendent pas 10 000 disques. Donc voilà.
Il faut venir au Luxembourg, voilà.
Oui, voilà.
OK, on va leur écouter ça. Broadwalk Sunshine. Thank you. Broadwalk, Sunshine, ein Stück Musik von Dokken Absolut. An der Wunsch auch für mich mein Witte am Moes Magazin Haut, dem Patrice Urbet, noch Direktor von Music LX. Donc Music LX, c'est en fait la partie finale de votre carrière professionnelle, si on peut dire ainsi.
Oui, c'est mon dernier poste, on peut dire, en tant que salarié.
Oui, donc vous avez des plans pour le futur ?
Oui, moi j'ai 65 ans, je me sens en grande forme, j'ai encore envie de travailler 2-3 ans. Et dès le 5 mars, de toute façon, je serai au boulot à Sarrebruck parce que le ministère de la Culture m'a confié une mission, les Sarrois, pour les aider à monter un nouveau festival dans la grande région en classique et en jazz. Et j'ai été choisi comme expert luxembourgeois pour les aider à le faire, donc... Et puis après, je vais manager peut-être ou être l'agent de différents artistes de jazz pour les aider à continuer à développer leur carrière. Donc voilà, il y a aussi un festival dans le sud de la France qui veut me recruter. Voilà, oui, j'ai plutôt trop de projets que pas assez.
Très bien. Vous m'aviez dit auparavant que vous n'êtes pas musicien vous-même et ça vous arrange et ça vous a même aidé.
Oui, ça m'a aidé parce que je sais pas lire une partition et donc j'ai l'oreille de monsieur tout le monde, du grand public. J'aime autant la musique classique que le jazz, que le pop-rock. Bon, je me suis plus spécialisé dans le jazz. Donc quand moi je regarde un spectacle, je le regarde comme... voilà. Et j'ai pas de parti pris, je suis je pense être très objectif et tout. Donc je pense que c'est utile pour les artistes d'avoir un regard extérieur qui n'est pas impliqué émotivement dans un style musical. Parce que y a des fois, certains directeurs artistiques sont tellement niches, tellement dans leur truc, que bon voilà...
Qu'ils ne voient pas ce qu'il y a autour encore.
Ils ne voient pas ce qu'il y a autour. Et donc voilà, il faut aussi que les artistes plaisent aussi au grand public. Et donc,
Dans le cours de ce temps que vous étiez chez... que vous êtes toujours chez Music LX, encore jusqu'au 4 mars, voilà.
Au soir.
au soir, il faut le préciser, parce qu'il y a encore plein de projets à finir, vous l'aviez dit auparavant. Mais au cours de ce temps, il y a eu une évolution aussi de Music LX.
Ah, c'est clair, oui, ça c'est
clair. Quelle a été l'évolution pour vous, personnellement, et pour ce qu'il y a comme personne auprès de Music LX?
Ça n'a pas été facile, on est parti de zéro. Il a fallu trouver des locaux, il a fallu créer le site internet. Moi, quand j'ai pris le poste et que j'étais encore à Londres, mes copains anglais qui travaillent dans la musique, quand je leur ai dit que j'allais travailler au Luxembourg pour développer la musique luxembourgeoise, ils ont bien rigolé. Ils m'ont dit « Ah bon, tu prends ta pré-retraite, tu vas commencer à travailler le lundi et puis le mardi soir, tu ranges tes crayons. Ah bon, il y a des artistes au Luxembourg, il y a une scène musicale. Je ne veux pas vous vexer, mais c'était comme ça, surtout vu d'Angleterre. Déjà, avec les Français, ils sont un peu comme ça. Bon, on a mis un peu de temps à imposer les artistes français en Angleterre. Mais alors, les Luxos, bon... Et puis après, pendant 3 ans, ça a été à chaque fois que je faisais quelque chose à Paris, à Berlin, la place financière, les banques, les paradis fiscaux et tout. À chaque fois que je parlais. Bon. Et là, depuis 5 ans, plus jamais un partenaire étranger me parle de paradis fiscaux. Plus jamais un partenaire me dit « Ah bon, il y a des artistes au Luxembourg et maintenant, voilà, on a réussi. » C'est ça, c'est peut-être ce dont je suis le plus content avec Music LX, c'est que... La scène luxembourgeoise est établie, elle est reconnue. Music LX est comme une marque, elle est connue. Tous les gens dans la musique connaissent Music LX aussi bien à Tokyo qu'en Corée, qu'en France et tout ça. Donc voilà, et on est un petit pays, mais on est très reconnu. On est considéré comme un des meilleurs bureaux export du monde. Voilà, c'est un peu ce qui se dit dans le milieu.
Mission accomplie donc.
C'est un compliment, et voilà. Donc après, il y a eu beaucoup d'évolutions, parce qu'au début, quand je suis arrivé, même M. Giovanni Trono aussi, pareil, bon, lui, il revenait du Canada et tout. Je ne connaissais pas trop tous les artistes, donc on s'est retrouvé avec une masse d'artistes qui ont sonné à la porte de Music LX, et puis on a dû quand même voir un peu qui avait le potentiel et qui n'avait pas le potentiel. Donc.
Il y en a combien d'artistes ou bien de formations qui sont inscrits chez... Est-ce qu'on peut dire comme ça, inscrits?
Oui, ou qui sont... Le critère, c'est d'être sur notre site internet, figurez. Oui. Voilà, donc je ne l'ai pas compté récemment, parce qu'on en a encore ajouté, je crois, deux ou trois en jazz récemment.
Oui, à peu près.
Ou une soixantaine, à peu près. Mm-hmm. Donc c'est un énorme boulot, 60 artistes à développer à l'international, il faut s'en occuper, ça veut dire faire des réunions avec eux, faire des bilans, les voir de temps en temps, les suivre, les proposer à l'international. Bon, voilà. Mais le plus important, c'est que l'artiste doit faire beaucoup du boulot tout seul. Je veux dire, nous, on n'est pas une agence de booking, on n'est pas là pour leur trouver des dates. Il faut qu'eux, et puis c'est à eux de se bouger pour déclencher quelque chose, quoi. Et après, nous, on rajoute quelque chose derrière, une plus-value, si un artiste trouve déjà 10 concerts, bah lui, on va lui trouver le 12e, le 13e, 14e, ou on va le mettre dans un beau lieu. Enfin voilà, c'est aussi aux artistes de se prendre en main. Mm-hmm. Et ceux qui réussissent, c'est ceux qui arrivent à faire ça.
Mm-hmm. Est-ce qu'il y a, du point de vue de votre travail, une différence entre les différents genres de musique?
Non, ils sont traités à égalité, à musique. Comme je vous dis, moi, je suis un directeur qui aime autant le classique que le pop-rock, que l'électro, que le jazz. Donc, les budgets sont similaires. Ça dépend évidemment du nombre de sorties d'albums et de disques, parce que c'est pas chaque année la même somme pour le jazz et pour ça. C'est en fonction des besoins et nous, on travaille beaucoup autour des nouveaux albums. Il y a un artiste sort un nouvel album, donc on va lui trouver un attaché de presse, on va faire de la promo, on va essayer qu'il y ait une tournée pour la sortie, donc voilà. Donc des fois, il y en a plus en jazz, des fois c'est plus en pop-rock, des fois ça va être plus en classique, donc ça dépend des sorties d'albums.
Quel est le budget par année de Musicalix?
Ben, en gros, on a 560 000 du ministère de la Culture, et je tiens à saluer que le ministère de la Culture, sans eux, on n'existerait pas, c'est clair. Et aussi un soutien de la SACEM Luxembourg, et je tiens à remercier son directeur Marc Nitz et tout. Donc voilà, grâce à ça, on a un pôle de stabilité, on a signé des conventions triennales avec le ministère ou quadriennales avec le ministère de la Culture. Donc voilà, et chaque année, le ministère de la Culture avait augmenté son soutien, accompagnant notre développement. Et donc ça, c'est formidable.
Ok. Quels sont les postes qui génèrent le plus de frais?
C'est le soutien aux artistes, hein, c'est la moitié de notre budget part dans le soutien aux artistes. C'est pour ça qu'on a été créé et tout ça. Donc.
Et il y a combien de personnes actuellement à Musicalix?
Ça fluctue beaucoup en ce moment parce qu'on a eu des démissions, on a déménagé à Aech, moi je suis sur le départ, donc voilà. Donc, en gros, on a entre 4 et 5 postes, quoi, voilà. Il y a un nouveau chargé de mission jazz qui va être recruté, un nouveau chargé de mission pop rock électro.
Qui sont déjà désignés?
En cours de désignation.
Ok. Giovanni Trono, il sera votre successeur. Oui. Est-ce que c'était clair dès le début ou...
Oui, je pense que j'avais été recruté pour ça. Donc, bon, quand on m'a recruté, on savait que voilà, j'avais mon âge. Hein. Je veux dire que qu'un jour, j'aurais 65 ans. Et donc, c'était clair que... Donc, un des buts, c'était... ils ont recruté un Français, mais maintenant, je suis luxembourgeois. Mais le but, c'était que je forme un luxembourgeois pour me succéder. Et Giovanni Trono... Le petit côté amusant, c'est que Giovanni, il est d'origine italienne, mais il est né au Luxembourg. Mais en fait, il n'a pas encore la nationalité luxembourgeoise, même s'il parle couramment luxembourgeois. Moi, le français qui parle mal le luxembourgeois, j'ai la nationalité.
Ok. Mais vous l'avez connu dès que vous étiez au Luxembourg, parce qu'il fait partie de Musicalix dès le début aussi.
Ben, je ne l'ai pas connu. J'ai cherché un adjoint et on l'a recruté par une petite annonce dans le journal, hein, tout simplement. Puis on a reçu plusieurs candidats et puis en entretien, c'était lui qui semblait le meilleur et aussi le plus débrouillard, comme vous disiez.
Ok, donc ça importe aussi beaucoup.
Et qui parlait plusieurs langues aussi, allemand, enfin, anglais. Enfin voilà, il faut être polyglotte et débrouillard pour travailler à Musicalix.
Ok, très bien. Vous avez dit que vous avez maintenant la nationalité luxembourgeoise, vous avez appris le luxembourgeois. Est-ce que vous allez rester au Luxembourg?
Non, je ne vais pas rester au Luxembourg parce que je dois dire que j'ai voulu regarder un peu pour acheter un appartement à Luxembourgville, parce que j'aime bien Luxembourgville, ou une maison, parce que en ce moment j'habite le quartier de Limpertsberg. Donc voilà. Et en tant que directeur de Musicalix, je ne peux pas me loger à Luxembourgville. Et donc du coup, tant qu'à faire, je suis retourné en France et j'ai une maison à Nice. Et pour une grande maison à Nice, je paye le prix d'un petit appartement à Dudelange. Quoi. Bon.
Ben oui, je pense ça, que le choix est fait.
Tout le monde... Donc, tout le monde connaît. Mais bon, voilà, j'irai m'inscrire au consulat de Nice, consulat luxembourgeois, et je resterai toujours fidèle au pays. Je serai toujours quelqu'un qui se considérera comme luxembourgeois, avec une double nationalité. Parce que pendant 8 ans, ou 9 ans, j'ai porté le drapeau du Luxembourg et le Rodeleuve. Et donc, voilà, maintenant j'ai attrapé le virus du Luxembourg et ça, c'est un virus pour toute la vie.
Qui le fait pas mal d'ailleurs. Hein.
Qui fait pas mal et qui m'a beaucoup enrichi aussi. J'ai beaucoup appris au Luxembourg.
Très bien, donc jusqu'au 4 mars, donc c'est lundi, je pense que vous êtes sur ce poste de directeur de Musicalix. Et vous m'aviez dit auparavant qu'il y a plein de projets à finir, lesquels, est-ce qu'on peut le dire?
Oui, ben, y a des contrats à faire avec des festivals qui ont embauché des artistes luxembourgeois, voilà, finaliser, dire au revoir aux partenaires, par exemple. Quand même, il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas que je quitte mes fonctions de directeur à l'étranger. Au Luxembourg, tout le monde le sait, donc faire un petit mail sympa d'adieu, mettre en ordre la comptabilité pour que le dernier jour, c'est prévu avec Monsieur Tronot, qu'on regarde ensemble et qu'on signe les papiers, combien il reste sur le compte en banque, l'inventaire, toutes des choses un peu administratives aussi. Donc terminer des opérations, mais ça, ce sera plutôt le samedi dimanche, et lundi la journée administrative avec mon successeur pour la remise des clés. Et voilà.
C'est un instant plutôt triste ou plutôt joyeux pour vous, ou les deux en même temps ?
Les deux en même temps. Bon, si j'arrêtais de travailler, ça aurait été triste. Mais moi, je suis très attaché, je dirais presque à mes artistes, je suis très attaché à tous les gens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai travaillé, les Marc Desmuth, les Paul Wilgen, les Michel Reiss, les Pascal Schumacher et tout ça. Enfin, je ne vais pas tous les citer. Mm-hmm. Donc du coup, voilà, je sais que je vais continuer à travailler avec eux, je vais garder un lien et tout. Et donc, c'est pas... Mais je vais changer de position. Voilà, je vais être plus comme un agent.
Donc... Au cours de votre carrière, donc, non seulement au Luxembourg, quel a été un ou des moments peut-être qui restent pour toujours dans votre mémoire, des highlights, si on pourrait dire ainsi ? Est-ce qu'il y en avait ?
Bah oui, il y en a eu plein, oui. Enfin bon, voilà. Puis chaque jour, il y avait une surprise et tout. Bah, oui, je sais pas. Quand on a lancé la première édition du Luxembourg Jazz Meeting, on ne savait même pas si on allait avoir 10 personnes qui allaient s'intéresser à venir voyager au Luxembourg, voir nos artistes sur scène, ça. Et puis on a eu 80 personnes, 80 professionnels qui applaudissaient. Et pourtant, les directeurs de festivals, ils sont difficiles, hein, parce que c'est leur métier. Donc
c'est des divas ?
Pas des divas, non, mais ils sont difficiles. Voilà, si c'est un artiste de seconde catégorie, voilà, ça le fait pas, quoi. Bon, voilà, ils ont l'habitude de voir que des... Il y a un trop-plein d'excellents... Il faut comprendre qu'aussi, maintenant, aujourd'hui, il y a des excellents artistes en Lituanie, en Estonie, en Chine, en Corée du Nord même, je dirais. Et donc, il y a un trop-plein d'artistes. Il y a des artistes formidables partout dans le monde. Mm-hmm. Donc, nous, avec notre petit Luxembourg, arriver à trouver une petite place, bah, c'est pas évident. Mm-hmm. Voilà, c'est comme ça. Donc, il faut être un peu malin, quoi.
Okay.
Des chemins comme ça.
Est-ce qu'il vous reste quelque chose à ajouter, à part que vous avez ramené encore Greg Lamy Quartet ?
Non, que Greg Lamy est un excellent artiste et que, voilà, que je lui souhaite beaucoup de succès.
Et pourquoi le choix de cette chanson A.C. ?
Bon, je sais pas, parce que je l'aime bien, je l'écoute dans ma voiture et...
Très bien.
Tout simplement, je n'ai pas réfléchi, c'est fait un choix du cœur.
Est-ce qu'il y a encore un vœu de votre part pour Musicalix dans le futur proche ?
Que moi je vais être maintenant encore actif dans le jazz et tout, mon souhait c'est que je puisse continuer à bien collaborer avec eux, mais pas dans la même position, puis que ça continue à bien se développer, parce que les nouveaux chargés de mission et les nouveaux directeurs, bien sûr, vont changer des choses à Musicalix, vont apporter leur touche, leur savoir-faire et tout, et que ça continue à bien se développer. Il y a toujours la question de l'intégration dans le grand plan culturel luxembourgeois. Donc, où sera Musicalix dans 3 ans ? Il y a des projets d'établissement public, enfin, ou pas. Enfin, voilà. Mais bon, nous, on fait notre boulot au quotidien.
Très bien. Je vous remercie beaucoup pour être venu au studio ce matin, Patrice Aubette, et un agréable futur, disons ainsi.
Merci, Phil Mauls. Thank you.
Greg Lamy Quartett zu mal hören in 7 Minuten bis 11.